Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Monsois. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. Dernier temps de notre semaine consacrée à l'Iran à l'occasion des 40 ans de la République islamique. Lundi, nous évoquions les institutions pour mesurer la solidité du régime. Mardi, nous parlions de la fragilité de l'économie. Hier, c'est l'émancipation sociale qui nous préoccupait. Aujourd'hui, place à l'Iran dans le monde. De l'agression irakienne à l'expansionnisme chiite, la politique étrangère de Téhéran, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
C'est donc la guerre entre l'Iran et l'Irak. Les forces armées irakiennes ont en effet reçu l'ordre d'attaquer les objectifs militaires iraniens.
L'attaque s'est bien passée. Pour moi, c'est un miracle du 12e imam. La bataille n'a été qu'une simple marche. L'ennemi s'était retiré avant l'attaque. Nous n'avons eu qu'à occuper le terrain. C'est pour ça que je dis que le 12e imam nous a aidés.
La Jordanie aide l'Irak. L'Égypte aide l'Irak. L'Arabie Saoudite aide aussi ce pays à nous agresser et à tuer notre peuple. Mais je pense que leur principal allié, ce sont les États-Unis. Quand je dis que ce sont les États-Unis qui aident l'Irak à occuper notre territoire et perpétrer son agression, je veux dire les États-Unis et tous ses alliés.
Cette voix qu'on entendait à l'instant, c'était celle d'Ahmad Azizi, vice-ministre des Affaires étrangères iranien, à propos des appuis étrangers à l'Irak dans la guerre qui les oppose. C'était une déclaration de janvier 1982. Le 22 septembre 1980, après des mois de tension, Saddam Hussein ordonne à son armée d'envahir l'Iran, qu'il pense affaibli par les querelles post-révolutionnaires. Dans son esprit, la guerre a duré quelques jours et elle dura finalement 8 ans, causant plusieurs centaines de milliers de morts. Fondateur, moment fondateur pour le régime iranien qui en retire une forte légitimité, ce conflit va durablement influencer la politique étrangère iranienne, revivifiant les antagonismes entre arabes et perses, entre chiites et sunnites, au point qu'on peut peut-être y lire le point de départ de l'expansionnisme de la République islamique. Aujourd'hui, du Yémen à l'Irak, en passant par le Liban et la Syrie, l'Iran multiplie les opérations militaires extérieures aux grandes dames de ses ennemis saoudiens, israéliens, américains et même européens. Seul contre tous, l'Iran pourra-t-il poursuivre cette stratégie périlleuse? À quel moment la volonté de puissance du pays particulièrement évidente dans le domaine nucléaire peut provoquer une rupture des équilibres régionaux? Et la guerre serait-elle au fond le carburant du régime iranien sans lequel il serait menacé d'effondrement? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. Pierre Razou, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien et puis directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur notamment de « La guerre Iran-Irak » était paru chez Perrin. À vos côtés, Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, chercheur vous pour le Bureau Moyen-Orient de l'Institut International d'Études Stratégiques et puis membre associé au Centre d'Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centre Asiatique de l'EHSS et puis également enseignant à Sciences Po. Auteur vous des relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979, c'était paru au PUF. Je faisais donc un petit rappel historique. Février 79, cette révolution iranienne qui permet à Khomeini, tout juste rentré de son exil à Nofle-le-Château, d'arriver au pouvoir, de transformer le pays en république islamique, mettant un terme à la dynastie Pahlavi. Et assez rapidement, bien sûr, un an et demi après, le pays plonge dans un conflit qui va durer quasiment 10 ans. Donc, en fait, il va y avoir quasiment un continuum entre le moment révolutionnaire, au fond, et le conflit avec le voisin irakien. Pierre Razou, on va commencer avec vous. Dans quelle mesure est-ce que cette décennie de guerre va-t-elle façonner la politique étrangère de l'Iran telle qu'on l'observe aujourd'hui? Jusqu'où est-ce qu'on peut dire que, au fond, cet événement va structurer son rapport à l'environnement régional et mondial, Pierre Razou?
Ben, je crois que on peut le dire justement. Ça a structuré l'environnement géopolitique et géostratégique de l'Iran. Si vous voulez, cette guerre Iran-Irak, elle a le même impact à la fois sur l'Iran et sur les leaders iraniens et la population iranienne, et en règle générale sur les voisins, le même type d'impact que ce que la Première Guerre mondiale a eu en Europe. C'est-à-dire que c'est comme si vous vouliez étudier la situation en Europe dans les années 1930, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, sans prendre en compte la Première. Aujourd'hui, la situation qui prévaut au Moyen-Orient, pas que dans le Golfe, mais également dans le croissant fertile, est non pas directement liée, mais est mentalement, si vous voulez, structurée par toutes les haines recuites, les méfiances, les trahisons qui ont caractérisé cette guerre en Irak. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, contrairement aux pays voisins, les leaders qui sont encore en place en Iran sont les leaders qui ont fait la révolution, ou du moins qui ont participé, et qui ont fait la guerre en Irak au plus haut niveau. Donc évidemment, pour eux, leur mentalité est complètement structurée par cette guerre. C'est-à-dire qu'ils sont dans la logique « plus jamais ça ». Plus jamais ça, besoin d'indépendance, besoin de sortir de l'isolement, c'est-à-dire ne plus se retrouver dans une situation d'isolement stratégique telle que dans laquelle était l'Iran entre 1980 et 1988, et donc nécessité de lier, on va dire, des partenariats avec les uns ou les autres.
Clément Terme, complètement d'accord avec cette idée qu'au fond, ce conflit va structurer la politique extérieure de l'Iran telle qu'on la connaît aujourd'hui. On ne peut pas comprendre les relations entre Téhéran et Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et même l'Europe sans revenir sur ce moment-là fondateur.
Oui, bien sûr, parce que compte tenu du drame humain qu'a constitué cette guerre, elle est présente dans toutes les mémoires et elle structure la pensée stratégique iranienne. Mais en même temps, il faut aussi voir la dimension idéologique de la politique étrangère iranienne qui explique aussi l'invasion irakienne de l'Iran et qui explique aussi la politique régionale de l'Iran et le choix, en fait, d'être isolé. Parce que c'est un choix proactif des élites révolutionnaires de se replier sur le territoire iranien. C'est ce qu'on appelle à l'époque le nativisme. C'est une idéologie, bon, ça se traduit par de l'islamisme politique rouméniste en Iran, mais c'est vraiment le choix, en fait, par la prise d'otage des diplomates américains, les 444 jours. Dans le mouvement révolutionnaire, il y a une purge, une clarification. Si on regarde qui était présent dans l'avion qui ramenait l'ayatollah Khomeini à Téhéran, on a même effacé en Iran, aujourd'hui Fars News a publié une photo, de nombreuses personnalités ont été effacées de la photo parce qu'ils ont été éliminés par la suite. Donc à la fois la prise d'otage des diplomates américains et la guerre Iran-Irak ont été, pour reprendre l'expression de Khomeini, un cadeau de Dieu parce que cela lui a permis de sauver la révolution et de purger ses compétiteurs au sein du mouvement révolutionnaire. C'est pour ça qu'on a ce récit de la gauche iranienne de la révolution trahie. Et donc, pour moi, c'est majeur pour comprendre l'attitude de l'Iran aujourd'hui, de la République islamique, notamment dans l'instrumentalisation du nationalisme iranien pour susciter l'unité nationale autour d'un projet révolutionnaire qui divise. Et donc, la guerre a permis ces purges et a permis d'instrumentaliser ce nationalisme iranien pour instaurer un régime autoritaire qui n'a rien à envier à celui du Shah, finalement.
Pierre Razou, puisque ce moment de la guerre Iran-Irak est si important, on va se placer juste avant. On va se concentrer sur la période avant le conflit avec l'Irak. Qu'est-ce qui change à ce moment-là en matière de politique extérieure, avant que la guerre n'éclate? En quoi est-ce que l'arrivée de Khomeini va transformer? C'est quoi les transformations les plus notables en matière de politique extérieure, avant le conflit?
Pour l'Iran?
Pour l'Iran.
Oui, alors je vais vous répondre bien sûr. Pour rebondir sur ce que disait Clément Terme, je crois que pour nos auditeurs doivent bien comprendre qu'il y a eu en fait deux révolutions en Iran. C'est un petit peu comme en France, comme en Russie, comme dans beaucoup de situations révolutionnaires. Il y a celle de 79 et puis ensuite il y a celle de 81, où justement en pleine guerre Iran-Irak et à cause de la guerre Iran-Irak ou grâce à la guerre Iran-Irak, le clergé prend les choses en main. Purge et élimine tous ces rivaux, on va dire, ou idéologiques ou laïques, et occupe la totalité des places. Donc c'est bien ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux révolutions l'une dans l'autre. La situation géopolitique, enfin ce qui change quand les révolutionnaires iraniens arrivent, c'est bien entendu un message très fort destiné aux occidentaux, mais pas à tous les occidentaux, principalement aux Américains et aux Britanniques. Accessoirement un petit peu les Français, les Allemands, les Italiens, enfin tous ceux avec lesquels le Shah entretenait des relations étroites et cordiales sur le plan économique ou politique. Donc
vous oubliez aussi les Soviétiques ou...
mais avec les Soviétiques, les relations ont guère changé au moment de la révolution même. Pourquoi? Parce que justement, plein de gens en Occident se disent « Ah mais cette révolution, entre guillemets, est plus ou moins téléguidée par Moscou ». C'est pas le cas. Mais c'est la crainte d'un certain nombre d'élites en Iran. Les Chinois aussi sont très méfiants. parce que les Chinois qui sont à l'époque dans une logique, si vous voulez, littéralement contraire à celle des Soviétiques, se disent tout ce qui est bon pour les Soviétiques est mauvais pour nous et tout ce qui est bon pour nous est mauvais pour les Soviétiques. Donc le Shah d'Iran avait d'excellentes relations avec Pékin et avec la Chine. Donc là aussi, les Chinois se crispent. Donc là où ça change véritablement, c'est qu'on passe d'une situation, on va dire, de totale dépendance aux Américains, à une situation où le nouveau pouvoir révolutionnaire dit à tout le monde, et bien sûr aux Américains en priorité, et aux pays voisins dans la région, bon maintenant, on va plus servir les intérêts américains, on ne va plus servir que les intérêts nationalistes iraniens. Et là-dessus survient la guerre Iran-Irak. Là, on change d'histoire et on change de rythme.
Clément Terme, au départ, en Iran, cette révolution islamique, elle est vue comme une façon pour les musulmans, de façon générale, de se libérer d'abord de l'oppression de régimes autoritaires, voire carrément dictatoriaux, et puis aussi de se libérer de l'influence de puissances étrangères. Mais il y a dès le départ cette idée aussi, dans l'ADN révolutionnaire, cette idée qu'il faut exporter la révolution. Est-ce que pour autant, on peut dire que, dès cet instant, on a là, en germe, ce qu'on va appeler aujourd'hui l'expansionnisme chiite. Parce qu'à l'époque, on parlait pas d'expansionnisme chiite. C'est une formule là dont on parle tout le temps depuis quelques années. Mais est-ce qu'il était déjà là, cet expansionnisme chiite?
Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Un jour, Radio Notre-Dame, une journaliste m'a parlé de la révolution chiite. Je lui ai dit, mais c'est vraiment une relecture journalistique à l'aune de la réalité du Moyen-Orient d'aujourd'hui. À l'époque, on parlait de révolution islamique. Il faut savoir que cette révolution a inspiré aussi des Palestiniens, sunnites. Donc ça allait au-delà des mondes de chiites. Pour revenir sur ce qui a changé dans le mouvement révolutionnaire, je pense que c'est d'abord les relations avec l'Inde. Parce que même si le Shah avait d'excellentes relations avec l'Inde sur le plan économique, l'idée du non-alignement, du tiers-mondisme de la révolution iranienne, c'est un peu les éléments de langage de l'Inde proche de l'URSS de l'époque. Ensuite, avec l'URSS, il faut bien voir la dimension du risque que faisait peser le parti communiste et les mouvements de gauche iraniens, dont certains étaient inféodés à Moscou. Donc il y avait quand même cette idée, Mahmoud Ahmadinejad par exemple avait parlé d'envahir l'ambassade soviétique à Téhéran plutôt que l'ambassade américaine. Donc malgré le slogan, si vous voulez, ni Est ni Ouest, République islamique, il n'y avait pas un accord sur ce que devait être la...
Grand Satan, petit Satan, parce qu'on oublie aussi, mais c'était des expressions qui étaient utilisées à propos des États-Unis et de
Israël,
de
la l'URSS. France aussi ensuite.
Du RSS, petit
oui,
Satan.
Oui, et puis la France ensuite à cause
Mini de... Satan, la France. Oui. Mini Satan. Non, mais c'était les expressions utilisées à l'époque.
Oui, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même ce choix de se replier sur soi, et il faut bien voir que l'Iran, dans les années 70, c'était une grande puissance à l'époque du Shah, donc c'était une économie assez performante, et il y avait quand même cette idée que le Shah, aujourd'hui, il y a un consensus, je pense, même parmi certains partisans de la République islamique, que sa politique étrangère était plutôt équilibrée et plutôt bénéfique à l'Iran. Et que la politique étrangère qui est mise en place après la Révolution fait une confusion, en fait, entre être indépendant et être seul. Et donc, le Shah, lui, c'est vrai, avait des bonnes relations avec l'URSS, les États-Unis. Il n'était pas du tout ce vassal des États-Unis qu'on décrit aujourd'hui, surtout après le choc pétrolier de 73. Dans les négociations nucléaires que l'Iran entretenait à l'époque avec les États-Unis, il y avait des tensions très fortes. Les États-Unis ont refusé de transférer les technologies d'enrichissement de l'uranium déjà à l'époque au Shah d'Iran. Donc les relations n'étaient pas excellentes et c'est pour ça que le Shah s'était tourné vers la France et l'Allemagne pour des coopérations nucléaires par une stratégie déjà de contournement de ces tensions avec les États-Unis. Mais le problème, c'est que le régime
Pour revenir à ma question initiale, qui est au fond, à quel moment est-ce qu'on bascule dans ce qu'on appelle désormais l'expansionnisme chiite?
Alors, je pense qu'il y a cette dimension sectaire qui existe dès le début, parce que la République islamique, pour projeter sa puissance dans la région, va tenter d'influencer le clergé chiite transnational. Mais dès le début, il y a un débat pour savoir si l'idéologie roméniste, c'est un internationalisme islamique ou un islamo-nationalisme. Et c'est là où, c'est dans les années 90 qu'on bascule vers l'islamo-nationalisme. Mmh. Et alors, le basculement vers la dimension plus sectaire, c'est d'abord 2003, la guerre d'Irak, puisque là, on a un pouvoir chiite qui s'installe en Irak, et 2011, les printemps arabes. Pourquoi ? Parce qu'à partir des printemps arabes, les États de la région qui sont menacés par des mouvements sociaux et des protestations populaires, en fait, se sentent... dans une situation d'insécurité. Et l'influence iranienne devient intolérable. Cette idée que finalement l'Iran refuse la politique de changement de régime des États-Unis et pratique elle-même la politique de changement de régime vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Puisque dès le début de la révolution, il y a ce discours iranien sur l'islam authentique iranien, bien sûr, et l'islam américain de la dynastie des Al-Saoud. Et donc, ça se joue pas au début sur chiite sunnite. Ça se joue sur ce débat. Et bien sûr, la principale rupture par rapport à votre question précédente, c'est la question d'Israël. Le Shah avait une bonne relation avec Israël.
On va y revenir.
Et là,
ça.
On bascule dans l'islamisme politique de type frère musulman, dans sa version chiite, et où c'est un devoir religieux de détruire Israël.
On va y revenir. On va faire un sort particulier, justement, en relation entre l'Iran et Israël. Mais, Pierre Razou, sur cette question de l'expansionnisme chiite, à quel moment, est-ce qu'au fond, il émerge? Et puis, au départ, comment Khomeini voit, justement, l'exportation de la révolution islamique? Est-ce qu'elle passe simplement par, j'allais dire, l'exemple et le désir des peuples de se libérer? Ou est-ce que ça va plus loin que ça? Et est-ce qu'on pense qu'il faut aussi accompagner, soutenir plus directement, quitte à interférer dans les affaires intérieures des pays?
Ben, je crois que, là encore, il faut se replonger dans la logique révolutionnaire de l'époque, comme disait aussi un petit peu Clément Terme. Et il y a des référents à la fois à la Révolution française et à la Révolution soviétique. La Révolution française, c'est que, si vous voulez, quelque part, peu ou prou, là, on est tous d'accord, il y a les tenants, si vous voulez, de l'autarcie et les tenants de l'ouverture. Ce n'est pas une question de gentil, modéré ou conservateur, c'est une question de ceux qui pensent que l'Iran peut s'en sortir tout seul, donc comme tu le disais, c'est la vision solitaire, ou au contraire, que oui, c'est l'indépendance, mais malgré l'indépendance, il faut s'ouvrir aux autres. Donc ça, c'est crucial. Donc vous avez globalement Khomeini et Khamenei qui sont, ou qui étaient à l'époque, pour une logique, on s'en sortira tout seul, donc c'est l'autarcie. Et Rafsanjani qui était clairement pour l'ouverture. C'est oui, on est conservateur, mais on a besoin des autres aussi, y compris sur le plan économique, donc il faut s'ouvrir. Le deuxième prisme, et c'est pour répondre directement à votre question, c'est un peu le référent à la révolution soviétique, c'est Trotsky. C'est-à-dire que vous avez ceux qui disent, au début, l'impression qu'on a, c'est que Khomeini, évidemment, lui, prudemment, lance ses idées et attend de voir comment elles vont réagir et comment elles seront reprises. Mais vous avez ceux qui disent, il faut bien entendu exporter l'islam chiite, mais plus que l'islam chiite, c'est exactement ça, c'est la révolution islamique. C'est un mouvement d'islamisation politique, c'est l'islam politique, c'est la révolution islamique à tous les pays de la région, à commencer par l'Irak, qui est notre voisin immédiat. Et donc ça, c'est un petit peu la ligne, si vous voulez, trotskiste. Et puis vous avez ceux qui disent, tel Staline, peut-être dans un... Ça, c'est le message fédérateur et mobilisateur, mais en réalité, il faut d'abord consolider la révolution en Iran, et quand elle sera bien consolidée, eh bien plus tard, éventuellement, on verra. Et en effet, on revient sur la logique des années 90 ou du début des années 2000. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, pour rebondir sur ce que disait Clément Terme, c'est qu'en fait, si l'Iran a pu être tenté à un moment donné par un pouvoir populiste d'Ahmadinejad, parce que là aussi, il faut bien comprendre les rivalités de politique intérieure, mais vous en avez déjà parlé dans les émissions précédentes, qui fait que un Khatami ou un Rafsanjani n'a pas du tout la même vision géopolitique qu'un populiste, par exemple, comme a pu l'avoir Ahmadinejad. Et donc, c'est qu'à ce moment-là, le pouvoir iranien utilise en fait les erreurs, les faiblesses des monarchies arabes, à commencer par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'il y avait un grand plan machiavélique qui consistait à dire en 2003 on va faire ceci, en 2005 on va faire cela. Mais à partir du moment où l'Arabie Saoudite se retrouve elle-même marginalisée, affaiblie par les attentats du 11 septembre, par ses conséquences, puis par les printemps arabes, évidemment, sans doute qu'une partie des dirigeants iraniens se disent profitons des faiblesses de l'Arabie Saoudite et occupons une partie du terrain perdu.
Clément Terme, vous aviez l'air de dire que finalement l'Iran avait choisi d'une certaine manière son isolement. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment choisi ou est-ce qu'elle l'a subi? Parce que quand on refait un peu le film et l'éclatement de la guerre Iran-Irak, on se rend compte qu'en fait, très rapidement, c'est à peu près l'ensemble du monde qui va se trouver contre l'Iran. Évidemment, l'Occident avec les États-Unis, mais aussi les Européens, avec des Français et des Allemands qui vont soutenir assez directement en fournissant des armes, en donnant de l'argent aux Irakiens. Quand on regarde l'URSS, par exemple, c'est un peu la même chose. L'URSS était liée par un accord de coopération avec l'Irak et donc choisit dès le départ la neutralité, mais donc d'une certaine manière ne soutient pas véritablement l'Iran. Est-ce que réellement l'Iran a choisi cet isolement? Est-ce qu'elle n'a pas plutôt subi quand on regarde cette décennie 80?
Alors, l'acte fondateur de la politique étrangère de la République islamique, c'est la prise d'otages. des diplomates américains. C'est pas la guerre en Irak. En fait, je pense, si on fait une question à rebours, c'est-à-dire se demander s'il y avait eu le Shah d'Iran, est-ce que Saddam Hussein aurait envahi l'Iran?
Non.
Je pense que non. Donc voilà, donc c'est quand même...
Pierre Azo dit non, il est d'accord.
Ouais. Donc c'est les conséquences, si vous voulez, du choix d'avoir plus de relations avec la grande puissance quand même, que sont les États-Unis, qui sont l'allié traditionnel de l'Iran au XXe siècle, même s'il y a eu Mossadegh, il y a eu des tensions, et il y a eu un mouvement populaire et des sentiments anti-américains qui se sont développés dans la population. Mais au niveau politique de la stratégie d'un État comme l'Iran, je pense que l'ambition que j'ai mentionnée, ni Est ni Ouest, République islamique, qui est le slogan, a toujours été plus Est que Ouest. Donc on voit dès le début des années 80 des coopérations avec des pays d'Europe de l'Est, la RDA, etc. Donc on voit quand même, même au niveau de la mise en place de l'appareil de sécurité de la République islamique, ce modèle autoritaire néo-soviétique, on pourrait dire, qui est quand même qui sert de source d'inspiration. En même temps, ce qui est particulier dans ce régime politique, c'est qu'ils pensent qu'ils sont la dernière alternative face, d'abord dans les années 80, au capitalisme et au communisme, et ensuite à la chute du communisme, au capitalisme. La lettre de Roménie à Gorbatchev à la fin des années 80, il dit à Gorbatchev que le communisme va rejoindre les musées de l'histoire et que finalement il doit se convertir à l'islam parce que c'est la dernière alternative sur le marché face au capitalisme mondialisé.
Et ça, c'est l'idéologie révolutionnaire islamique, c'est-à-dire qu'on est contre toute idéologie matérialiste quelle qu'elle soit, que ce soit le capitalisme ou le communisme.
Mais il y a des contradictions, parce que comme l'a indiqué Pierre Azou, pour la survie de l'État, la faction de Rafsanjani pense que pour la survie de la révolution, et encore aujourd'hui Rouhani, même s'il est très affaibli, pense qu'il vaut mieux avoir des relations économiques avec les États-Unis pour renforcer le régime politique par une forme de réalisme. Mais en même temps, ils sont pas prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'appliquer les normes juridiques américaines, avoir la normalisation politique et diplomatique. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est l'impossible application du modèle chinois à l'Iran. Parce qu'il n'y a pas de consensus dans les élites pour cette ouverture. Donc finalement, c'est toujours des ouvertures en demi-teinte. On a déjà eu Rafsanjani, Ratami, Rouhani, et à chaque fois, c'est un échec. Donc on voit finalement que ce régime n'est pas réformable et que la tension qui a lieu actuellement est très forte sur les choix de politique étrangère qui sont contestés par la population iranienne. Donc il y a vraiment ce que vous appelez entre guillemets l'expansionnisme chiite, qui est à mon avis inapproprié parce que il y a une diversité telle dans les mondes chiites que finalement l'Iran est aussi minoritaire dans les mondes chiites. Donc le modèle de tutelle du juriste théologien Velayat Tefari dont vous avez dû parler dans les précédentes émissions finalement ne fait pas consensus au sein du clergé chiite transnational. Donc l'Iran est en minorité même au sein de son propre monde religieux. Donc là on voit les limites de cette puissance régionale et en même temps il y a un attrait quand même au Liban, au Pakistan, en Afghanistan par exemple pour ce modèle à l'extérieur, mais il y a un affaiblissement à l'intérieur, c'est-à-dire que la population iranienne souhaite aujourd'hui que l'Iran soit un état normal.
Pierre Azou, vous vouliez réagir, je vais vous laisser réagir et puis je vais me permettre de glisser aussi une question à laquelle vous allez tenter de répondre pour clore, j'allais dire, cette page vraiment autour de la guerre Iran-Irak, pour savoir si, à la fin de la guerre Iran-Irak, il y a des évolutions, voire même des ruptures en matière de politique extérieure. Mais d'abord, vous vouliez réagir au propos de Clémentaire. Je vous en prie.
Oui, juste aussi pour rappeler que si le régime semble en effet un peu à bout de souffle aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire que c'est sans doute une problématique que vous avez dû évoquer dans les émissions précédentes, mais ce qui est frappant à Téhéran aujourd'hui, c'est que tout le monde vous dit, quel que soit le bord politique, je veux dire des plus conservateurs, ou en passant par le clergé, en passant par les réformistes, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que la vieille génération dégage et font du dégagisme. Hein. C'est pour ça qu'ils sont très intéressés par l'expérience française, par ce qui s'est passé autour de Macron. Et nous, on veut, nous, sous-entendu, la génération des cadres à quinca, on veut arriver au pouvoir, et entre guillemets, nous, on arrivera à s'entendre entre nous et avec les voisins sur un agenda différent. Mais il faut que cette
même
première
si le dégagisme est loin d'être une spécificité française. Mais enfin
exactement.
Bon, c'est pas la question.
Exactement.
Sur la question
de la fin de la guerre,
est-ce qu'il y a des évolutions notables en termes de politique extérieure?
Bien sûr. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, on n'en a pas parlé, mais il y a deux pays qui font la bascule en permanence, c'est l'Union soviétique et la Chine. C'est-à-dire que comme ils sont en miroir frères ennemis de la, du clan communiste, à chaque fois que l'URSS soutient l'Irak, la Chine soutient l'Iran, et quand l'Union soviétique soutient l'Iran, parce que ça arrive, eh bien la Chine soutient l'Irak. Et à trois reprises pendant la guerre Iran-Irak, en fait les alliances, on va dire, du bloc de l'Est vont changer. C'est-à-dire que la Russie va soutenir d'abord l'Iran, parce qu'elle commence par soutenir paradoxalement l'Iran, avant de ressoutenir l'Irak, puis à la fin de la guerre, de nouveau de soutenir l'Iran, quand justement Gorbatchev arrive au pouvoir. Entre-temps, il s'est entretenu. Alors bien sûr, il envoie Roménie lui envoie une lettre, bon, qui doit faire sourire sans doute Gorbatchev, mais en même temps, Gorbatchev s'est entretenu avec Saddam Hussein et a considéré que c'était vraiment quelqu'un avec qui on pouvait pas traiter et qu'il fallait pas garder. Donc, à la fin de la guerre, alors même que les canons ne se sont pas encore tus, l'Union soviétique a pris la décision stratégique de s'allier, de se rapprocher fortement de l'Iran. Mmh. Donc oui, bien sûr, ça change.
Alors la question du rapport avec Israël, on a l'habitude maintenant, ça fait des années, on sait que les relations sont absolument exécrables. Allez, un exemple assez récent en date, Benjamin Netanyahou, une petite déclaration à propos de l'Iran, c'était en juin dernier.
Le message principal est qu'il faut rester dur avec l'Iran. Avoir un accord sur le nucléaire ou pas est une question importante. Mais le vrai sujet est, soyons sûrs que l'Iran n'aura pas la bombe. Il faut remettre l'Iran à sa place. Toute cette façon d'essayer de comprendre l'Iran, d'être compréhensif avec ce régime, mais pourquoi ?
Clément Terme, aujourd'hui on a l'habitude, au fond, Israël et l'Iran, ce sont les meilleurs ennemis de la région. Sauf qu'en fait, il faut rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque du Shah, les relations entre l'État hébreu et l'Iran étaient plutôt bonnes, à tel point d'ailleurs que l'Iran avait même reconnu Israël. Et c'était pas très répandu à l'époque, seule la Turquie dans la région l'avait fait. Donc c'était quand même assez notable. Shah d'Iran disait d'Israël, c'est le meilleur ami non musulman de l'Iran. Et on menait même des coopérations militaires conjointes pour, par exemple, aller aider les Kurdes irakiens dans leur lutte contre l'État central, contre le régime de Saddam Hussein. Au moment de la guerre du Kippour, par exemple, aussi, vous racontez ça très bien, Pierre Grazou, dans un article que j'ai lu hier, en 73, donc le Shah va mettre la pression sur Bagdad pour qu'il baisse un peu le volume des soldats qui seront envoyés combattre Israël en Syrie. Bref, il y avait une forme d'alliance entre Israël et l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Je dirais oui, il y a eu une entente, c'est ce qu'on appelait à l'époque la doctrine de la périphérie. Donc c'est les alliés non arabes du Moyen-Orient, la Turquie, Israël et l'Iran. C'est la théorie de Begin. Mais ensuite, il faut voir aussi que le Shah quand même était à la tête d'un pays musulman et qu'il reconnaissait aussi la Palestine, qu'il avait quand même un discours pro-palestinien. Donc je pense qu'il y a eu aussi une relecture de l'histoire sur ce plan par la République islamique. Et il y a de nombreux ouvrages. Donc pour eux, à part la prise d'otage de l'ambassade que j'ai mentionnée, des diplomates américains, un autre acte fondateur, c'est de donner l'ambassade d'Israël aux Palestiniens. La première visite, c'est Yasser Arafat. Mais ce qui est ambigu dans la
République... C'est en quelle année, ça ?
Ça, c'est la première visite après la révolution, la prise du pouvoir de Roménie, donc 79-80, donc on est au début de la révolution, mais les relations se détériorent très rapidement. Pourquoi ? Parce que Yasser Arafat va soutenir Saddam Hussein contre l'Iran, donc il y a un sentiment de trahison. Donc il faut savoir aussi que certains révolutionnaires iraniens avaient été entraînés par les forces palestiniennes, et donc on a ce discours antisioniste militant qui est au cœur de l'idéologie roméniste, voire teinté d'antisémitisme, et en même temps, on a des relations exécrables avec les Palestiniens de la République islamique. Donc c'est que au moment où le Hamas se crée à la fin des années 80, au mouvement islamiste palestinien émerge, et surtout le djihad islamique, que l'Iran va avoir de véritables alliés en Palestine. Donc cette volonté d'être un acteur dans le conflit israélo-palestinien, pour moi, c'est la dimension idéologique de la politique régionale de la République islamique, et cela montre que la politique étrangère de l'Iran actuelle est contraire aux intérêts nationaux du pays. Parce que clairement, je pense que tous les nationalistes iraniens disent, de toute façon, aujourd'hui, quand on signe un accord sur le nucléaire avec les États-Unis, cet accord n'est pas tenable s'il n'y a pas une normalisation à la fois avec Israël et l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que ces pays ont une influence telle à Washington que, de toute façon, ça va être un combat permanent pour maintenir le dialogue irano-américain si d'abord on ne traite pas notre problème régional. Et c'est par idéologie, donc cette stratégie en fait qui s'appelle autosuffisance en persan, rot kafai, c'est ça le principe fondamental de la politique de l'Iran sur le plan économique et stratégique après la révolution. C'est l'idée en fait qu'on va réinventer la roue qui a déjà été inventée ailleurs. Et donc le discours d'ouverture en fait c'est une adaptation pour la survie. Mais l'exemple de l'impossible normalisation à la fois avec Israël et l'Arabie Saoudite montre que finalement, même s'il y a eu des tentatives dans les années 90 avec l'Arabie, c'est quelque chose qui est très difficile à Téhéran parce que ça fait partie vraiment de l'ADN de la révolution. Et revenir sur la question d'Israël, pour les élites révolutionnaires d'aujourd'hui, c'est revenir au Shah d'Iran. C'est donc c'est une remise en cause en fait de tout le mouvement révolutionnaire. Et donc cette génération qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est la première génération des compagnons de l'ayatollah Khomeini, en fait, il va y avoir un problème. Pierre mentionnait ça dans ses propos tout à l'heure. Mais dans la transition qui va avoir lieu, parce que Khamenei a 80 ans, la question de la participation des gardiens de la révolution, qui sont aussi en lutte hein, en Syrie, proche des frontières d'Israël, va se poser. Parce que est-ce qu'on va évoluer vers un régime plus militarisé ? Parce que les alliés du guide actuel, c'est les gardiens de la révolution, ou un régime plus modéré, plus pragmatique autour d'une transition qui serait déterminée par le président Rouhani.
C'est la grande bascule à venir, mais il faut attendre pour savoir effectivement comment ça se passera. Mais Pierre Razou, effectivement, cette question de la relation entre l'Iran et Israël, alors malgré les provocations que souligne Clémentaire, malgré le fait qu'effectivement, dans l'ADN, si je puis dire, de la révolution islamique, il y a bien sûr un antisionisme et que donc il y a des difficultés absolument évidentes s'agissant des relations avec Israël. Et en même temps, et vous rappelez ça dans votre papier, moi je honnêtement je ne le savais pas ou je l'avais oublié ou que sais-je, ou ça me paraissait totalement impossible, mais on oublie qu'au début de la guerre Iran-Irak, les Israéliens vont fournir des armes aux Iraniens. C'est absolument impensable aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à l'époque, les Israéliens considèrent que, en réalité, cette alliance avec Téhéran est encore possible. Elle pourrait finir par redevenir réalité. C'est ce qu'ils pensent à l'époque.
Oui, tout simplement pour suivant le vieux précepte de les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, à ce moment-là de l'histoire, l'adversaire majeur d'Israël, c'est l'Irak. Au passage, je note qu'Israël s'invente à chaque fois un nouvel adversaire majeur quand elle a besoin d'un adversaire. Mais ça, c'est une autre question. Donc, jusqu'en 86, c'est-à-dire jusqu'à ce que le président Reagan torde le bras de Begin et de Sharon en leur disant là, vous arrêtez les livraisons d'armes à l'Iran. Pourquoi ? Parce que Reagan menace de tomber dans l'Iron Gate, donc qui est finalement indirectement, c'est-à-dire que c'est les Américains qui demandent aux Israéliens. C'est-à-dire qu'ils sous-traitent aux Israéliens la livraison d'armes qui leur permet de libérer les otages américains, ce qui permet au passage aux Israéliens de gagner pas mal d'argent, d'entretenir des réseaux de connexions et en même temps de négocier eux-mêmes le retour d'une partie des Juifs iraniens en Israël. Donc tout le monde y a intérêt. Et puis après la guerre, ça continue doucement, non plus en termes de livraison d'armes, mais en termes de contacts. Et en fait, ces contacts, ils n'ont jamais cessé, on va dire, jusqu'en 2005, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'Ahmadinejad. Assez régulièrement, des autorités israéliennes et iraniennes peuvent se côtoyer dans des grandes conférences internationales, y compris Khatami et le président israélien de l'époque. Et tout le monde sait très bien que les services et iraniens et israéliens discutent, même s'ils ne se reconnaissent pas, discutent discrètement autour des tables pour, à l'époque, évoquer les grands dossiers de la région. Donc, il y a une vraie rupture en 2005 avec l'arrivée d'Ahmadinejad, parce que ça correspond en même temps à l'échec des négociations sur le nucléaire, à un discours beaucoup plus populiste d'Ahmadinejad. Mais donc, en fait, la cristallisation de la crise, si vous voulez, irano-israélienne, en fait, elle dure même pas 15 ans. En fait, elle dure de 2005 jusqu'à 2015 et un peu avant, 2013, l'arrivée de Rouhani, puis la relance des négociations sur le nucléaire et finalement l'accord sur le nucléaire de 2015. Donc,
on est encore dans une crise aujourd'hui.
Mais pourquoi ?
Parce qu'on est loin de la normalisation, Pierre Razou.
Bien sûr, parce que aujourd'hui, le pouvoir iranien et surtout le pouvoir israélien ont tous les deux, pour des raisons de politique intérieure, intérêt à stigmatiser l'autre. C'est-à-dire que si Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, qui est considérablement affaibli, qui s'est lancé dans une élection prochaine et qui a de gros soucis judiciaires devant lui, sait que s'il va voir la population israélienne pour lui dire « Vous savez quoi, en fait, mais l'Iran, on peut très bien discuter avec eux comme on a fait pendant 20 ans, d'ailleurs on leur a livré des armes », évidemment, il tombe le lendemain. Et de même qu'en Iran, si le guide finalement fait une déclaration pour dire « Oh, en fait, vous savez, on peut très bien s'entendre avec les Israéliens, en tout cas discuter avec eux », c'est pareil, il perd sa crédibilité, donc son rôle d'arbitre. Donc ce que je veux dire, c'est que la crise ou le conflit irano-israélien, il est totalement instrumentalisé à des fins de politique intérieure et en Iran et en Israël. Et ce que me disent, et c'est une anecdote, mais ce que me disent à la fois mes contacts israéliens et mes contacts iraniens, c'est que paradoxalement, bien évidemment, un jour, ils pourront très bien renouer des relations. Pas forcément arriver à une reconnaissance pure et formelle, mais reprendre le dialogue, comme cela a été le cas pendant des décennies.
Ça vous paraît possible, Clémentaire? Mais alors, il y a évidemment ce que dit Pierre Razou, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est quasiment impossible, compte tenu du fait qu'on a besoin de livrer un message politique à l'intérieur même des pays, que les opinions respectives d'Israël et de l'Iran n'y seraient pas prêtes. Mais il y a peut-être aussi un autre élément qu'on pourrait mettre en avant, c'est que Saddam Hussein n'est plus là. Au fond, pendant très longtemps, ce qui structurait précisément cette alliance entre Israël et l'Iran, c'était cet ennemi commun, à savoir l'Irak. L'Irak de Saddam Hussein. Aujourd'hui, l'Irak de Saddam Hussein n'est plus là, et donc ce qui faisait le ciment de cette alliance, s'est effrité. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même, malgré tout, pas tout de suite, mais à terme, revenir vers une normalisation des relations entre l'Iran et l'État hébreu?
Alors, ça va dépendre de l'évolution du régime en Iran. S'il y a une révolution ou une réforme très très importante des fondamentaux idéologiques de l'ayatollah Khomeini, mais je vois pas, vu les déclarations de Khomeini sur Israël, je vois pas un dirigeant iranien remettre en cause des dires de l'ayatollah Khomeini sur ce plan-là, parce que c'est la question de l'islam politique, c'est central dans l'idéologie. Après, si la question de la survie de la République islamique est en jeu, tout est possible. On l'a vu avec les livraisons d'armes pendant la guerre Iran-Irak, mais aujourd'hui, c'est plutôt dans la région le risque d'un conflit. C'est-à-dire, en Syrie, il y a à la fois des milices chiites soutenus par l'Iran qui nient l'existence d'Israël, donc qui ont une dimension antisioniste, qui sont embrigadés par l'Iran, formés par l'Iran. L'Iran construit des universités aussi, des centres de formation, où cette idéologie antisioniste de l'ayatollah Khomeini est diffusée. Et en même temps, Israël joue la carte de la Russie dans ses relations ou dans ses non-relations avec l'Iran. C'est-à-dire que les dirigeants russes qui font passer les messages entre Israël et l'Iran pour éviter un affrontement direct, militaire. Mais pour l'instant, l'Iran garde un profil bas en Syrie. C'est-à-dire que quand Israël détruit des cibles iraniennes, l'Iran ne réagit pas. Il n'y a pas de rétorsion ni du Hezbollah libanais, ni de l'Iran. Il y a eu un missile récemment, mais on voit une certaine forme de retenue parce que l'Iran ne peut pas se permettre un conflit ouvert, tout simplement parce que la supériorité militaire d'Israël est écrasante. Mais c'est vrai qu'on est très très loin d'une normalisation, on est plutôt dans un risque de conflit. Mais du fait de la médiation russe et de la capacité de la Russie à avoir d'excellentes relations avec Israël et de moins bonnes relations avec l'Iran, mais de relations correctes quand même, on a des canaux de discussion qui évitent le pire. Mais récemment, pour l'Iran, c'est terrible. C'est-à-dire que quand Israël frappe des cibles iraniennes en Syrie, les Russes laissent faire. Et donc il y a des protestations, notamment au Parlement iranien, de députés qui crient à la trahison russe. Mais si vous voulez, ce phénomène iranien de crier à la trahison russe date du début de la mise en place des relations dans les années 90. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alliance. Ça montre aussi les limites de cette politique étrangère qui a comme ennemi les deux très grandes puissances régionales que sont Israël et l'Arabie Saoudite et la grande puissance internationale, les États-Unis. Et dans ce cadre-là, il est très difficile pour l'Iran d'être une grande puissance régionale.
Si on regarde un tout petit peu les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite cette fois, Pierre Razou, évidemment, on parle toute cette semaine des 40 ans de la République islamique. Depuis 79, les relations entre Téhéran et Riyad sont particulièrement difficiles. Les tensions sont très fortes. Mais aujourd'hui, on est carrément dans des relations conflictuelles. C'est-à-dire qu'on a quand même des terrains sur lesquels on s'affronte. Alors, soit ce sont des conflits interposés en Syrie, au Yémen, etc. Mais ce sont quand même des conflits. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Même question que tout à l'heure avec Israël. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un conflit ouvert militairement, même si c'est en terrain interposé?
Alors déjà, moi je pense pas qu'il y ait conflit ouvert. C'est-à-dire qu'il y a friction, il y a affrontement, si vous voulez, par milices interposées, ça c'est sûr, notamment au Yémen. Au Yémen, il faut pas oublier que les Iraniens l'utilisent de la même manière qu'ils ont instrumentalisé le conflit kurde contre Saddam Hussein et contre l'Irak dans les années 70. C'est-à-dire que ma compréhension, j'explique aussi dans le livre, c'est que les Iraniens font passer le message aux Saoudiens: tant que vous refusez de vous asseoir à la table de discussion pour qu'on puisse envisager ensemble l'avenir de la région et nos relations bilatérales et s'entendre sur un certain nombre de lieux de friction, bien sûr, on continuera à vous embêter et à vous titiller au Yémen. Le Shah, non pas le pouvoir islamique, mais le Shah d'Iran faisait exactement la même politique face à l'Irak en instrumentalisant les Kurdes irakiens dans les années 70. Le jour
avec le soutien d'Israël, d'ailleurs.
Avec le soutien d'Israël. Le jour où...
Mais il a quand même signé les accords d'Alger en 75,
exactement.
Le chat.
Et bien voilà, le jour... Mais le jour où le chat a signé les accords d'Alger en 75 avec les Irakiens, hop, il a arrêté tout soutien aux Kurdes. Je suis persuadé que si demain ou après-demain, les Iraniens, et les Saoudiens s'assoient autour de la table de discussion et trouvent peu ou prou une entente régionale, bien évidemment, ils arrêteront tout soutien aux Houthis au Yémen. Mais plus généralement, je voudrais aussi revenir un petit peu sur la question de la Syrie. Je crois qu'il ne faut pas limiter l'affrontement en Syrie à un affrontement entre l'Iran et Israël. Là, on est, je pense, assez d'accord avec Clément Terme. C'est une partie générale où tout le monde joue. Les Turcs, les Russes, les Occidentaux et les Américains, bien sûr Israël, les Saoudiens beaucoup moins qu'avant. L'Iran, l'Irak et le régime syrien lui-même et les Chinois maintenant. Donc ce que je veux dire, que je suis moins pessimiste et je pense qu'au contraire en Syrie et au Levant, on a de fortes chances d'aller vers un apaisement de la situation. Tout le monde joue à se faire peur parce que en fait, et les Russes et les Américains et les Israéliens ont intérêt à maintenir un certain niveau de tension pour justifier leur politique, etc. Mais personne, en fait, n'a véritablement intérêt à ce que ça escalade et à aller sur une guerre régionale. Certainement pas les grandes puissances, certainement pas la Russie, les États-Unis et la Chine, qui, eux, au contraire, pour des raisons économiques, ont besoin d'apaisement. Mais même Israël et l'Iran, qui ont besoin de pacifier la région, en tout cas de l'apaiser, pour pouvoir exporter leur gaz et leur pétrole, et pour Israël, leur gaz offshore, en direction des marchés.
Tout le monde a besoin d'un apaisement.
Tout le monde a besoin d'un apaisement. Simplement, ce qu'on voit en Syrie, c'est que chacun met en place des limites, si vous voulez, de dissuasion. C'est-à-dire, vous ne jouez pas dans mon territoire, je ne joue pas dans le vôtre.
On est avec vous, Pierre Razou, et vous, Clément Terme, autour de cette série consacrée aux 40 ans de la République islamique, de l'agression irakienne à l'expansionnisme chiite, la politique étrangère de Téhéran, c'est notre sujet ce matin. On va s'intéresser maintenant aux relations entre l'Iran et l'Europe. Je vous propose d'abord d'écouter la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. C'était cette semaine.
Les États-Unis ont réintroduit des sanctions contre l'Iran. Nous sommes en désaccord avec cette décision, car nous considérons, comme l'AIEA, que l'Iran respecte ses engagements au titre de l'accord nucléaire. Pour autant, même si nous n'avons pas suivi la décision américaine, elle risquait de s'imposer à nos entreprises compte tenu à la fois du rôle international du dollar et de l'importance du marché américain. Nos entreprises risquaient de ne plus pouvoir commercer du tout avec l'Iran. C'est pour atténuer ce risque qu'Instex a été créé il y a quelques jours, conjointement entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Voilà, donc suite à l'annonce du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Europe s'est montrée solidaire de l'Iran avec ce dispositif de contournement des sanctions américaines baptisé Instex. Mais derrière cette posture de soutien, de solidarité vis-à-vis de l'Iran, comment juger l'histoire des relations entre l'Europe et la République islamique sur ces 40 dernières années? Bonjour François Nicoulot.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Iran. Il y a quelques jours, l'Allemagne et la France et la Grande-Bretagne ont annoncé donc la création de ce fameux dispositif dont je parlais à l'instant. Et dans le même temps, Téhéran faisait savoir qu'il était inacceptable de lier son fonctionnement à des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et il faut rappeler qu'effectivement, il y a en ce moment des discussions avec l'Iran à propos de l'application des règles, des exigences du GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui est cette entité internationale chargée de lutter contre le blanchiment de capitaux. Eh bien, le GAFI a posé ses conditions pour que l'Iran soit sorti de sa liste noire des pays, des territoires non coopératifs. Et de son côté, Téhéran ne veut pas s'y plier. Donc la première chose qu'on voit, c'est que derrière cette solidarité affichée qu'on a vue ces derniers jours, il y a des tensions très fortes et on est loin du soutien total et inconditionnel, François Nicoulot.
Oui, oui, en effet. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que cette résistance aux règles du GAFI, ce n'est pas la résistance du gouvernement iranien. C'est la résistance des radicaux, des conservateurs radicaux, qui finalement sont extrêmement puissants au sein du régime, hein, qui tiennent beaucoup de leviers au sein du régime et qui essayent d'empêcher précisément la mise en œuvre des règles du GAFI, donc des règles qui, on le sait, visent à empêcher l'utilisation, le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent sale. En fait, le gouvernement iranien sait très bien qu'il n'a pas le choix. Il est évident que nous n'allons pas instaurer un système de commerce spécial avec l'Iran si en même temps nous n'avons pas l'assurance que ce dispositif ne sera pas détourné à des fins de soutien au terrorisme, de blanchiment d'argent sale.
Oui, ça paraît assez logique. François Nicoulot, si on fait là aussi, qu'on regarde un petit peu sur le temps long, vous aviez écrit un article passionnant dans la revue Hérodote, dans lequel vous décortiquiez l'histoire des relations entre l'Europe et l'Iran. Vous racontiez comment, à partir de 78, les Européens vont assister avec une certaine sidération à cette révolution islamique. Comment assez vite aussi on va dénoncer les agissements du nouveau régime. Il y a évidemment l'épisode qu'on rappelait tout à l'heure de la prise d'otage de l'ambassade américaine. Il y a ensuite l'éclatement de la guerre Iran-Irak et donc ces Européens qui se rangent du côté de l'Irak. À quel moment est-ce que les relations entre l'Europe et l'Iran vont commencer à s'apaiser? C'est dès la fin de la guerre Iran-Irak?
Oui, c'est à peu près à ce moment-là que quand même les Européens reviennent au contact, les Iraniens reviennent au contact, parce qu'au fond, ils sont quand même malheureux d'avoir des mauvaises relations avec, notamment avec la France, notamment avec l'Allemagne. L'Iran n'a pas beaucoup d'amis au monde, il faut bien se dire ça. Dans la région, franchement, il n'a pas beaucoup d'amis. Si on cherche les endroits où l'Iran a des amis, ce n'est pas au fin fond de l'Asie, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas du côté de la Russie dont il se méfie énormément. C'est finalement la vieille Europe, c'est les Allemands, les Français, pas forcément les Anglais, parce que là, il y a de lourds contentieux historiques. Mais voilà, à cette époque, les Iraniens recherchent à nouveau le contact, on essaye de renouer. C'est pas simple, on y arrive, il y a des hauts et des bas. Et en fait, la relation redémarre. Les Français règlent leur contentieux nucléaire avec l'Iran, qui avait pesé extrêmement lourd. Ils remboursent l'Iran des prêts que la France avait contractés du temps du Shah. Et à partir de là, effectivement, les choses redémarrent. Évidemment.
Oui, alors les choses redémarrent. Effectivement, il y a des hauts et des bas. Il y a notamment les années Khatami. On pense que on va pouvoir avancer. Finalement, les espoirs sont un peu rapidement douchés. Et puis il y a le début des années 2000, en 2002 en particulier, où on va relancer. L'Europe va relancer avec l'Iran les négociations. Alors que quand même, dans le même temps, George W. Bush vient de placer l'Iran sur l'axe du mal, quand même, hein, aux côtés de la Corée du Nord. Et l'Irak, par ailleurs.
Oui, c'est un moment très important, l'intervention des trois Européens. Vous savez que les États-Unis, à l'époque, enfin l'ensemble de la communauté internationale, disons, est très préoccupé par le fait que l'Iran est en train de construire des installations nucléaires à des fins affichées civiles, mais dont on sait qu'elles peuvent être détournées assez aisément à des fins militaires. Et les Américains, qui sont quand même dans une phase d'euphorie, puisqu'ils ont gagné, ils viennent de gagner la guerre en Irak, donc ils ont éliminé Saddam Hussein, auraient bien envie de continuer du côté de l'Iran, et en tous les cas, ils sont tous d'accord du côté américain pour employer une ligne dure pour traîner l'Iran au Conseil de sécurité. Et c'est à ce moment-là que, il faut bien le dire, historiquement, c'est Dominique de Villepin, le ministre français des Affaires étrangères à l'époque, qui se rebelle en quelque sorte contre cette volonté et qui décide d'essayer de lancer une négociation. Et il convainc ses collègues allemands et britanniques de l'accompagner à Téhéran pour essayer de débloquer la situation.
Là, on est en octobre 2003, François Nicoulot, et ça fonctionne. Vous dites qu'on obtient un accord, des concessions spectaculaires, dites-vous, de la part de la République islamique, et notamment vraiment la suspension du programme d'enrichissement, et finalement, les choses vont se gâter, mais pas tellement à cause des Iraniens, mais en fait à cause des Européens. Il va y avoir des querelles internes, François Nicoulot.
Il va y avoir des querelles internes. Toute la question, en fait, c'est que derrière les trois Européens, les Américains poussent pour que, s'il y a négociation, en tous les cas, cette négociation aboutisse au démantèlement complet des installations sensibles iraniennes, notamment des installations d'enrichissement. C'est ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle encore, parce que Trump y songe lui-même, le zéro centrifuge. Zéro centrifuge, parce que c'est avec les centrifuges que, précisément, l'on enrichit l'uranium, soit à des fins civiles, tout à fait normales, soit à des fins militaires, en continuant, en allant vers les hauts enrichissements, et là, on a assez d'uranium hautement enrichi pour fabriquer les bombes. Ça, c'est ça le cœur du problème. Mais les Européens savent que cette exigence est inacceptable pour les Iraniens qui considèrent ce programme nucléaire comme une grande cause nationale. Ils sont arrivés à chauffer à blanc leur opinion et maintenant ils ne peuvent plus reculer. Et là, on en est là. Donc il y a une espèce d'ambiguïté. Et finalement, ça prend quand même un an et demi. Quand les Iraniens comprennent que les Européens ne veulent qu'une seule chose, c'est le zéro centrifuge, ils rompent les négociations.
Il y a quand même aussi un autre moment qu'il faut peut-être rappeler, c'est le moment où le cercle des négociations précisément s'élargit, où d'autres acteurs vont rentrer en piste, la Chine, la Russie, mais aussi évidemment les États-Unis qui, vous le rappeliez, au départ n'étaient pas très très enclins à participer à ces négociations, et on met en place ce fameux format P5+1, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis l'Allemagne qui reste au fond le format de discussion disons classique avec l'Iran, en tout cas celui qui a permis de trouver cet accord sur le nucléaire, dont Trump s'est maintenant retiré. Si on vient sur la période récente, et il nous reste encore quelques instants, François Nicolau, on se souvient de la visite de Jean-Yves Le Drian, pour le coup, à Téhéran, c'était en mars dernier. Elle était censée, c'est ce qu'on pensait, constituer un préambule à peut-être une visite future du chef de l'État. Pour le moment, le déplacement d'Emmanuel Macron n'est pas prévu sur son agenda. Vous qui êtes un ancien ambassadeur de France en Iran, François Nicolau, est-ce que vous pensez que le président français doit aller en Iran?
Il doit aller en Iran, j'allais dire, un jour, le moment venu, comme dit le Quai d'Orsay dans ses communiqués officiels. Mais manifestement, si on y a pensé un moment, maintenant, le moment est passé. Hein, il y aura probablement une autre occasion, mais il est passé. Et notamment, la visite de notre ministre Le Drian, qui devait préparer cette arrivée, cette visite officielle donc de notre président, s'est en fait très mal passé parce que Le Drian a tenu un discours dur, c'était la ligne qui avait été choisie, dur sur deux points. L'Iran doit brider son programme balistique qui pourrait déboucher un jour sur des missiles capables de transporter des têtes nucléaires, donc ça inquiète un peu tout le monde, et puis il doit arrêter de mener une politique de conquête et d'hégémonie au Moyen-Orient.
Pas sûr que les Iraniens soient prêts à entendre effectivement cette requête. Tout dernier mot, parce qu'on est vraiment au terme de cette émission, je vous donne 25 secondes chacun, Clémentin, Pierre Razou, en guise de conclusion. Clémentin.
Oui, pour continuer ce que disait Monsieur l'ambassadeur, je pense que l'histoire des relations contemporaines entre l'Iran et l'Europe, c'est aussi l'incapacité à avoir une indépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis, parce que le président Macron peut aller en Iran.
Donc vous ne croyez pas en Instex, c'est ça que je lis en creux dans votre propos.
Ah non, pas du tout.
Voilà,
je pense que c'est
le fameux dispositif de contournement des sanctions, ça marchera pas.
Une idée de bureaucrate, et la réalité, en fait, on peut pas aller en Iran au moment où toutes les grandes entreprises françaises annulent leurs contrats.
Pierre Razou.
Et moi, je voudrais conclure en rappelant juste une chose, c'est que si les Iraniens ont subi 40 ans de justement guerre en Irak, sanctions et isolement, c'était pour être indépendants, notamment vis-à-vis des Américains et des Occidentaux. Et aujourd'hui, leur vraie problématique, c'est rester indépendant et donc ne pas tomber dans la main des Chinois ou des Russes. Donc c'est ce qui explique justement qu'ils maintiennent le lien avec les Européens. دو تا چشمون سیاهت.
Merci infiniment à François Nicolau qui était à l'instant avec nous par téléphone. Le Turban et la Rose qui était paru chez Ramsay en 2006. Merci Clément Terme également. Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 79, c'était au PUF. Pierre Razou, merci également infiniment. La guerre Iran-Irak, première guerre du Golfe. C'est le titre de votre ouvrage qui était paru chez Perrin en 2013. Merci beaucoup à tous les trois. J'indique évidemment qu'on peut retrouver cette émission et toutes celles qui concernaient l'Iran cette semaine sur le site de France Culture. Merci. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier sur Tour du Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Folie des foules, sagesse collective, vous disiez hier, l'un des critiques les plus véhéments de la folie des foules, c'est Platon.
Eh oui, comme on sait, ce philosophe n'était pas un grand fan de la démocratie athénienne. Pour lui, le démos se conduisait d'une manière indiscipliné parce qu'il était régi par ses émotions et ses préjugés, ses colères et son ignorance. Et surtout, aveuglé par la poursuite de ses intérêts à court terme, il poussait à des décisions qui contredisaient les intérêts à long terme de la cité. Mais l'expression « la folie des foules » a été créée par un essayiste écossais du 19e siècle, Charles Mackay, dans un livre de 1841 qui s'appelait « Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds ». Illusion populaire et extraordinaire et la folie des foules. Il y analysait notamment les engouements extravagants et les bulles spéculatives telles que la fameuse crise des tulipes qu'a connue la Hollande au XVIIe siècle. C'est lentement que les oligarchies gouvernantes se laissèrent convaincre que la seule source de légitimité incontestable ne pouvait résider que dans l'assentiment des gouvernés. Mais dans la plupart des pays qui ont adopté la démocratie, le droit de vote est demeuré longtemps entre les mains d'une minorité qui s'estimait plus éclairée, plus rationnelle et plus compétente. L'élargissement du suffrage au peuple entier a donc été très progressif en réalité. Au cours du XXe siècle, la tendance a été de faire confiance à la sagesse des masses plutôt qu'à se méfier de leur folie, même si les engouements et les égarements collectifs ont engendré les régimes totalitaires, comme le montra fort bien Ortega y Gasset. Mais en gros, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la démocratie parlementaire paraissait constituer une tendance mondiale inexorable. La méfiance des élites envers les foules avait disparu et la confiance des masses envers les élites était rétablie. Mais voilà qu'à nouveau, les démocraties font face à des formes renouvelées de lassitude et de scepticisme. En outre, elles affrontent des défis inédits. La méritocratie communiste qui gouverne la Chine se présente comme le meilleur rempart face aux folies des foules. Un universitaire néo-zélandais, professeur de sciences politiques à l'université Victoria de Wellington, qui s'appelle Colin James, a récemment mis en ligne une étude intitulée « La sagesse des foules versus la folie des foules » qui fait le point sur l'état du débat à partir d'un certain nombre d'études de parutions récentes. Les démocraties libérales, constate-t-il, reposaient sur l'alternance au pouvoir de partis modérés de droite et de gauche. Les préférences des foules, canalisées par leurs représentants élus, étaient ainsi maintenues dans certaines limites. Nous avons connu, écrit ainsi Colin James, une ère de « bounded rationality », de rationalité contrainte. Mais depuis quelques années, la foule n'est plus modérée par des partis modérés. Des frustrations ont été exploitées par des démagogues à la Trump. Les partis modérés sont mis au défi par de nouveaux mouvements politiques qui, je cite James, se posent en alternative aux élites et dont la séduction repose davantage sur ce qu'ils refusent que sur ce qu'ils proposent.
Brice, de son côté, la démocratie représentative semble en échec. Elle apparaît comme confisquée par des classes ou des partis qui utilisent le pouvoir à leur avantage. Elle a perdu la capacité d'éclairer le démos. Elle subit les manipulations de puissances étrangères.
En cause, les nouveaux requins de la finance, l'oligopole de l'économie numérique. Les GAFA étouffent la presse d'investigation en la pillant. Ils canalisent les informations en fonction de ce qu'ils savent de leurs utilisateurs et un pourcentage inouï des messages qu'ils colportent ont pour source en réalité des robots. Ils bombardent le public de fake news. L'acte d'accusation dressé par le politologue britannique Jamie Bartlett dans un livre qui s'intitule « The People vs. Tech » How the Internet is killing democracy est accablant et convaincant. Pour lui, la démocratie et Internet sont carrément incompatibles, tant ils obéissent à des principes et à des logiques contradictoires. La démocratie exige des délibérations qui prennent du temps, l'inscription dans un espace physique délimité et précis, une culture partagée, des élections, la confiance envers les autorités légales, tout ce que fracasse Internet. Si les dirigeants des démocraties ne parviennent pas à les mettre sous contrôle, prétend Bartlett, les réseaux sociaux finiront par détruire nos démocraties. Mais la note de Colin James à laquelle je faisais référence se conclut par une phrase optimiste. Sur le modèle du crowdfunding qui permet, on le sait, de financer des start-up ou des associations, on devrait pouvoir sauver la démocratie par le crowdsourcing ou production participative. Des décisions qui affectent la vie des gens peuvent et doivent être prises justement grâce aux outils numériques avec la consultation des premiers concernés, je cite Colin James, à travers une utilisation novatrice des technologies numériques pour informer, consulter, impliquer les électeurs dans des décisions plus complexes que les référendums à réponse binaire, oui ou non.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.